Ou Afrique, le monde aujourd'hui. Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition de jeudi 16 mars 2023. Eric Manilakiza avec vous au sommaire. Au Sénégal, trouble à Dakar lors du procès de l'opposant Ousmane Sonko dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Au Burkina, 18 civils dont 2 volontaires pour la défense de la patrie VDP tués lundi dans 3 attaques de djihadistes présumés. La Côte d'Ivoire organise le rapatriement de ses ressortissants fuyant les violences en Tunisie.
J'ai travaillé comme un ouvrier là-bas. Mais après le discours du président tunisien, nous n'étions plus en sécurité là-bas. Nous étions agressés de partout. C'était difficile.
Visite du secrétaire d'État américain Tony Blinken ce jeudi au Niger après une première étape en Éthiopie.
La coopération Niger-Amérique, je salue cette coopération d'abord, et c'est au beau fixe. C'est au beau fixe, surtout avec la coopération militaire.
Dans votre page économie, l'Union européenne va augmenter ses investissements au Kenya en vue de contrer la concurrence de la Chine. Et en sport, Gianni Infantino entame ce jeudi un nouveau mandat à la tête de la FIFA qu'il dirige depuis 2016. À suivre dans notre page sport. Pour l'instant, le journal. Journée tendue au Sénégal. Des heurts ont éclaté dans la capitale Dakar juste avant une comparution de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation. Le président du parti, PASTEF, a été extrait de force et de son véhicule par les forces de sécurité sur sa route vers le tribunal pour un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Ce procès pour diffamation a été renvoyé au 30 mars. Correspondance de Seydina Abagué à Dakar.
Ousmane Sonko, extirpé de force de son véhicule, est conduit au tribunal de Dakar dans un blindé et sous escorte par des unités d'élite de la police et de la gendarmerie. C'est la scène la plus marquante de cette énième journée d'audience dans l'affaire dite Prodac, où l'opposant doit répondre face au ministre du Tourisme qui l'accuse de diffamation. Un procès de nouveau renvoyé sur demande des avocats d'Ousmane Sonko, qui estiment que leur client n'est pas en état de répondre car il a été brutalisé et blessé par les forces de défense et de sécurité. Au bout de plusieurs heures de cacophonie, de débats houleux et de suspension d'audience, le juge a finalement accédé à la requête des avocats de l'opposant. Ce dernier, de même que l'un de ses conseils, ont été évacués vers des structures sanitaires pour recevoir des soins. Parallèlement, dans les rues de Dakar, de violents affrontements ont lieu depuis ce matin entre les militants de l'opposition et les forces de défense et de sécurité. Malgré le renvoi du procès, l'ardeur des manifestants ne faiblit pas, ce qui fait craindre de nouveaux événements meurtriers, comme c'était le cas au mois de mars 2021, où 14 personnes avaient perdu la vie. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
De nouvelles attaques meurtrières au Burkina Faso, au moins 18 civils dont 2 supplétifs de l'armée, ont été tués dans 3 assauts de djihadistes présumés dans le centre-est et le nord du pays. L'information a été communiquée aujourd'hui, quelques jours après le massacre. Jacques Aristide.
La première attaque a été perpétrée dans le village de Toabine, dans la région de Boulgou. C'était lundi dernier. Des habitants, parmi ceux qui ont pu prendre la fuite, racontent que des groupes terroristes ont pris d'assaut leur localité avant d'abattre au moins 7 villageois. 4 autres ont été blessés par balles. Le même jour, dans la région du Nord, des tirs à l'arme lourde ont visé 2 endroits de la province du Loroum, dont Tansaligo, qui abrite le quartier général des VDP, comprenait les volontaires pour la défense de la patrie. Bilan, au moins 3 morts. Plus tard, dans l'après-midi, c'est le village de Argo, proche de Titao, chef-lieu de cette même région du Loroum, qui a cette fois été pris pour cible par des hommes armés, là où ils ont tué au moins 7 habitants. En riposte, une 20aine de terroristes ont été neutralisés le même jour par des frappes aériennes de l'armée burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État, a fait part de sa détermination intacte à combattre les djihadistes. Mais les attaques qui leur sont attribuées se multiplient au Burkina.
Le ministre gabonais des Transports, Brice Paya, a démissionné ce jeudi, une semaine après le naufrage d'un petit ferry qui a fait au moins 21 morts et 16 disparus, selon un bilan encore provisoire, a annoncé la présidence. Les rebelles du M23 se sont retirés ces derniers jours de plusieurs localités de l'Est de la RDC où des soldats de la force régionale est-africaine sont en cours de déploiement, ont indiqué ce jeudi des sources civiles et militaires, constatant prudemment une accalmie. Dans les combats, ces mouvements interviennent alors que la diplomatie s'active pour obtenir un cessez-le-feu et un retrait des rebelles du M23 des positions qu'ils ont conquises depuis un an dans le Nord Kivu. Le fils du président ougandais, Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2026, assurant qu'il était temps pour, je cite, notre génération de briller, avant de retirer ce jeudi son tweet. Monsieur Kainerugaba avait pourtant déclaré en 2013 que l'Ouganda n'est pas une monarchie. Yoweri Museveni, 78 ans, qui dirige l'Ouganda depuis 1986, pourrait de nouveau se porter candidat à la présidentielle prévue en 2026. MSF a dénoncé ce jeudi l'abandon dans le désert de milliers de migrants expulsés par l'Algérie présents à Assamaka, ville de la région d'Agadez dans le nord du Niger. MSF ajoute que des personnes cherchent à s'abriter de la chaleur qui peut atteindre 48 degrés à Assamaka jusqu'à dormir dans des tentes de fortune. C'est une situation sans précédent, affirme l'ONG dans un communiqué. Le chef de la mission de MSF au Niger dénonce une situation qui exige une réponse humanitaire d'urgence de la part de la CDAO d'où provient la majorité de ces personnes. Après une première étape en Éthiopie, le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui au Niger. Il est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans l'ancienne colonie française, base militaire clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les djihadistes au Sahel. Hier, M. Blinken a affirmé que ses déplacements dans les deux pays étaient partie intégrante dans l'engagement du président Joe Biden à être à fond pour l'Afrique avec l'Afrique. À Niamey, je suis en ligne avec notre correspondant Abdelrazak Idrissa. Abdelrazak, bonsoir.
Bonsoir, Jacques.
Les détails de cette visite de Anthony Blinken.
Oui, le chef de la diplomatie américaine vient à l'instant avec sa délégation de finir une rencontre avec la délégation nigérienne conduite par le président Mohamed Bazoum, une rencontre qui a duré.
Nous avons un problème technique avec la ligne téléphonique de notre correspondant à Niamey. Nous allons essayer de le recontacter. Coup de tonnerre politique en France. Le président Emmanuel Macron a choisi au dernier moment de faire engager ce jeudi la responsabilité de son gouvernement pour faire passer sans vote à l'Assemblée nationale son projet décrié de réforme des retraites. Claire Morégibourg.
Quelques minutes avant le début d'une session parlementaire décisive au cours de laquelle les députés devaient voter sur ce projet crucial pour Emmanuel Macron, la première ministre Elisabeth Borne a justifié le passage sans vote de la très controversée réforme des retraites sous les huées des députés. Le Conseil des ministres a autorisé le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer un projet de loi sans le soumettre au vote en engageant la responsabilité du gouvernement. Tous les ténors de l'opposition ont fustigé cette décision. C'est un constat d'échec total de ce gouvernement et pour Emmanuel Macron, a déclaré la chef de file de l'extrême droite Marine Le Pen qui a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure. Emmanuel Macron joue son crédit politique sur ce projet, symbole de sa volonté affichée de réformer la France au cours de son second mandat.
Le contact est rétabli avec notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa. Idrissa, le secrétaire d'État Anthony Blinken a déjà rencontré le président Bazoum.
Oui, tout à fait. Il a rencontré il n'y a pas longtemps avec sa délégation. Ils ont eu une rencontre d'un peu plus d'une heure de temps. Là, il y a une conférence de presse qui va bientôt se dérouler entre lui et le ministre nigérien des Affaires étrangères.
Désolé de ce problème technique qui émaille cette édition. Nous allons y revenir dans notre édition de 18h30. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
Le FMI félicite les autorités de N'Djamena qui sont parvenues à un traitement de la dette avec leurs créanciers fin 2022, permettant ainsi de garantir la viabilité de la dette et la stabilité financière. Telle est la déclaration de Kendi Okamura, directeur général adjoint du FMI, à l'issue d'une récente visite au Tchad. Toutefois, le FMI note que des mesures relatives à la rationalisation des dépenses non prioritaires, notamment les subventions régressives sur les carburants et l'électricité, et les réformes visant à renforcer la mobilisation des recettes non pétrolières seront cruciales. L'Égypte promet au FMI d'uniformiser les règles entre les secteurs publics et privés, renforcer le climat des affaires, réduire le rôle de l'État et de l'armée dans les activités stratégiques économiques et permettre aux entreprises privées de jouer un rôle beaucoup plus important. Cette promesse s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien du FMI de 3 milliards de dollars annoncé en octobre. Terminons par l'Union européenne qui s'engage à augmenter ses investissements au Kenya pour renforcer ses liens avec la locomotive économique de l'Afrique de l'Est et contrer la concurrence de la Chine. L'ambition est de débloquer un potentiel inexploité à découvrir et à exploiter, a déclaré son ambassadrice au Kenya, Henriette Geiger, lors du forum économique tenu à Nairobi le mois dernier. Les engagements comprennent notamment une promesse de dons de 200 millions de dollars au profit des entreprises d'Afrique orientale et australe.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On connaît le premier club qualifié pour les playoffs de la Basketball Africa League.
Oui, il s'agit du Rwanda Energy Group qui a décroché hier mercredi sa troisième victoire d'affilée dans la phase de poule de cette conférence à Sahara. REG a battu 69-55 l'AS Douane qui a ainsi perdu sa deuxième sortie dans cette balle saison 3. REG se qualifie pour les playoffs prévus à Kigali au Rwanda. Rien ne va aussi pour les Nigériens de Kwara Falcons. Trois matchs, trois défaites, la dernière 85-75 devant les champions en titre, les Tunisiens de l'US Monasti, qui enregistrent deux victoires en deux sorties dans cette compétition. Pas de match aujourd'hui, la compétition reprend demain, vendredi.
Balle au panier, toujours Stephen Curry fête ses 35 ans avec 50 points.
Steph Curry a inscrit 50 points pour les Golden State Warriors, mais n'a pas pu à lui seul éviter la défaite du tenant du titre contre les Clippers à Los Angeles, 134-126. Les Grizzlies ont chuté à Miami face aux Heat, large vainqueur 138-119. Les Los Angeles Lakers, toujours privés de leur star LeBron James, ont commis un fâcheux faux pas à Dallas, où les Houston Rockets les ont battus 114-110. À l'Est, les Philadelphia Sixers ont consolidé leur rang de troisième en allant s'imposer 118-109 à Cleveland contre les Cavaliers. Joel Embiid a inscrit 38 points, raflé 18 rebonds et a réussi 4 contres pour les Sixers. Les Celtics ont eu très chaud à Minneapolis face aux Timberwolves avant de s'imposer à 2 points 104-102.
Enfin, football, Gianni Infantino réélu président de la FIFA.
L'Italo-Suisse a été réélu jusqu'en 2027 à la présidence de l'instance mondiale du football, sans concurrent et par acclamation lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali. Le dirigeant de 32 ans, élu en 2016 et reconduit dans les mêmes conditions en 2019, pourrait se maintenir jusqu'en 2031 à la tête du football mondial. Son premier bail de 3 ans est considéré comme incomplet. En quoi les précédents mandats de Gianni Infantino ont-ils profité au continent africain? Élément de réponse avec Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca.
Le fait d'augmenter au nombre de 48 sélections, ça a poussé proportionnellement. La FIFA a donné plus de présence au football africain. Le continent qui a le plus bénéficié de cet élargissement est l'Afrique. Il y a le projet Forward pour aider les fédérations sportives. Il y a visiblement quelques projets qui sont en cours et qui permettront de former des cadres. Et on n'a toujours pas l'impression que la CAF est sur des bons rails en ce moment.
Merci Amine.
Et c'est tout pour l'espoir. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. We'll be right back.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé en début d'après-midi à Niamey où il a été accueilli par son homologue nigérien. Il est le premier chef de la diplomatie américaine à s'y rendre et doit annoncer davantage de soutien américain au Niger, pays enclavé qui est l'un des plus pauvres de la planète. À l'occasion de cette visite, notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, a tendu son micro à quelques habitants de la capitale sur ce qu'ils pensent des relations entre les États-Unis et le Niger. Suivez.
La coopération Niger-Amérique, je salue cette coopération d'abord, et c'est au beau fixe. C'est au beau fixe, surtout avec la coopération militaire. Vous savez, le Niger traverse une période d'insécurité et nous voyons comment est-ce que aujourd'hui les forces militaires américaines qui sont en tout cas sur le territoire nigérien sont en train de former les forces de défense et de sécurité et ils arrivent avec cet appui de formation à mettre à nu en tout cas les terroristes. Bravo pour cette coopération et la coopération ne s'arrête pas seulement du côté sécuritaire, il y en a plusieurs coopérations dans le cadre du changement climatique, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'eau potable. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui avec lesquelles, depuis l'indépendance du Niger à aujourd'hui, la coopération américaine ne fait que progresser.
Et à la différence de la coopération avec les autres, il y a un peu plus d'objectivité. Les États-Unis nous a appuyés avec beaucoup de matériel de guerre, mais aujourd'hui ils sont dans une logique de positionnement militaire. Mais il faudrait que nos dirigeants puissent être très vigilants par rapport aux clauses des contrats qu'ils signent avec ces puissances. Parce qu'on sait que ces puissances-là, en réalité, elles n'ont pas d'amis, elles ne visent que leurs intérêts. Certains sont peut-être plus gloutons, plus mesquins que d'autres. Nous avons un devoir en tant que la jeunesse, en tant que société civile, pour vraiment amener nos dirigeants à être très clairvoyants.
Bon, Niger-Amérique, la relation-là, c'est visible et palpable. Ils nous ont aidés au vu de l'insécurité et tout ce qu'il y a vraiment. En tout cas, nous apprécions cela.
La relation des États-Unis et le Niger, moi, je me dis que c'est une relation de subordination. Parce que les États-Unis, de manière générale, ont toujours la tête haute depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. On peut traiter avec vous, mais pas d'égal à égal au fond. Dans la forme, oui, ça peut aller, on sourit, on passe, mais dans le fond, ce n'est pas du tout ça.
Bon, la coopération Niger-Amérique, moi je vois que vraiment c'est une bonne coopération. Malgré que ce ne sont pas des pays colonisateurs, mais vraiment j'apprécie la coopération qui est entre le Niger et l'Amérique. Vraiment, parce que l'Amérique fait de son mieux vraiment pour aider le Niger sur la question sécuritaire, alimentaire, etc.
Propos recueillis par notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa. À l'instar d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire organise elle aussi une opération spéciale de rapatriement de ses ressortissants fuyant les violences en Tunisie après les propos du président tunisien contre l'immigration non contrôlée d'Africains subsahariens dans son pays. La cinquième vague d'Ivoiriens est arrivée le mardi 14 mars à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le reportage de Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
La cinquième et dernière vague de 145 Ivoiriens a été accueillie par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora. L'ambassadeur Léon Adam Kakou fait le point de ces cinq vagues de migrants ivoiriens qui ont regagné leur pays.
Avec ce dernier vol, se termine l'opération de rapatriement de nos compatriotes qui a été initiée à la demande du chef de l'État, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous avons au total, avec les 5 rotations, 725 Ivoiriens. Il semble qu'il y ait encore entre 2000-2600 qui se sont signalés à l'ambassade et certainement qu'il va falloir penser à les faire revenir aussi.
Ces Ivoiriens, parmi les migrants subsahariens, étaient en détresse en Tunisie après les propos du président tunisien.
J'ai travaillé comme un ouvrier là-bas, mais après le discours du président tunisien. Nous n'étions plus en sécurité là-bas. Nous étions agressés de partout. C'était difficile.
Moi, j'ai tout laissé, tout abandonné là-bas.
À l'accueil de la quatrième vague le samedi 11 mars 2023, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Madame Candia Kamisoko Camara. Elle était composée de 150 adultes, dont 7 enfants. La ministre n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils.
Vous êtes rentré chez vous, mais ayez un projet en tête. Vous vous organisez. Et là, vous allez au ministère de la Jeunesse, il y a des gens même pour vous aider. Comment monter un dossier, comment vous encadrer le fonds FAFSI.
Le souhait de cette jeune dame, comme bon nombre de ses compatriotes rapatriés, c'est leur réinsertion dans le tissu économique du pays.
Ici c'est un salon de coiffure, ici c'est un magasin, même si c'est élevage, tout ça là, je suis prêt à faire.
L'État de Côte d'Ivoire avait déjà pris des dispositions. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres du 1er mars dernier.
L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc du transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'un milliard de francs CFA.
Et c'est le ministère de la promotion de la jeunesse qui pilote l'opération. Herman Nikoué, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes, à la télévision nationale dévoile les phases du processus de réinsertion.
L'accueil sur le site pour pouvoir donc les profiler. Un entretien plus poussé qui est fait dans nos agences à Abidjan ou à l'intérieur du pays. La prise en charge. Ceux qui veulent faire des formations, ceux qui veulent être accompagnés pour des projets, ceux qui veulent faire des stages et la mise en place des financements et puis le suivi à court, moyen et long terme.
725 Ivoiriens ont jusqu'ici regagné leur pays par vagues successives en provenance de la Tunisie et un peu plus de 2000 autres attendent d'être rapatriés. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Sans surprise, Gianni Infantino a été réélu par acclamation président de la FIFA pour un mandat de 4 ans. Il a promis de nouveaux programmes, entre autres la Coupe du Monde des moins de 17 ans chaque année. Davantage avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishim.
La mondialisation du football féminin s'est concrétisée avec la Coupe du Monde féminine organisée en France en 2019. Infantino se félicite d'avoir relevé les frais accordés aux différentes fédérations. Le Congrès de Kigali a adopté le nouveau calendrier des compétitions qui, selon le président de la FIFA, profitera énormément aux joueurs, les principaux acteurs du monde du football.
On doit protéger la santé des joueurs. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis en place une task force pour regarder exactement comment on peut, dans chaque cas, s'assurer que les joueurs aient une période de vacances, qu'il y ait suffisamment de temps entre deux matchs, qu'il y ait un temps de récupération et que tout ça se passe bien ou le mieux possible dans le cadre de ce nouveau règlement.
Le président de la FIFA a également promis d'augmenter les compétitions des plus jeunes, à commencer par les moins de 17 ans, pour que toutes les générations valorisent leurs talents.
La Coupe du Monde des moins de 17 va se jouer à partir de 2025 chaque année et pas tous les deux ans pour les garçons et pour les filles. Comme ça, on risque pas de perdre une génération, mais chaque génération, chaque année, va avoir le droit de jouer une Coupe du Monde des jeunes, des moins de 17, avec beaucoup plus d'équipes participantes en plus.
S'exprimant pour l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a insisté sur l'unité et la fraternité, le message essentiel du football.
Lorsque les fans jettent les bananes aux footballeurs africains, c'est à cause d'un environnement social négatif qui alimente ces mauvais comportements. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que le jeu est inclusif et que chacun est respecté.
Pour Gianni Infantino, la FIFA doit faire davantage que se limiter au football, mais coopérer pour la résolution des défis mondiaux.
Nous avons la responsabilité d'aider à affronter les défis mondiaux et nous continuerons à le faire, que ce soit le climat, les droits de l'homme, les maladies. Nous jouerons notre rôle étant donné que nous sommes 211 pays représentant le monde entier.
World.
Le pays hôte de la Coupe du Monde de 2030 sera annoncé lors du prochain congrès de la FIFA en 2024. Jean Damasène Manichimé pour VOA Afrique, Kigali.
Des propriétaires de petites et moyennes entreprises se sont retrouvés mercredi pour la Small Business Expo, le salon commercial et l'opportunité du réseautage de numéro 1 aux États-Unis pour les entreprises. L'événement qui s'est tenu au Whitfield Entertainment Group Studio dans le nord de Washington DC a réuni des centaines de personnes soucieuses de renforcer leur réseau professionnel et donner un nouvel élan à leurs affaires. Reportage signé Nanit Talani.
La SBE, Small Business Expo ou Exposition des petites entreprises, est l'événement le plus attendu de l'année par les acteurs économiques ici aux États-Unis. C'est non seulement le plus grand salon professionnel, mais aussi une journée de conférences, de formation et de réseautage interentreprises au profit des propriétaires des petites et moyennes entreprises et industries et les start-up. La Nigériane Banky Bankole vit à Landover dans le Maryland où elle possède Alonos Food, une boutique qui vend des produits et des épices africains. Je suis venue ici pour le réseautage, pour faire connaître mon entreprise, parce que je veux être tout autre. Je veux dire être partout dans le monde. Je ne veux pas être limitée, c'est pourquoi je suis ici. J'ai rencontré beaucoup de gens, des professionnels de différentes compagnies, et nous nous sommes connectés. Et j'ai obtenu beaucoup d'informations dont j'avais besoin pour mon entreprise. La Small Business Expo proposait aussi un hall d'exposition de produits et services innovants. C'était également l'occasion pour les femmes et les hommes désireux de se lancer dans les affaires, d'établir de nouvelles relations professionnelles, de faire connaître leur entreprise ou encore apprendre et s'inspirer des autres. Stanley Agbontin, d'origine nigériane, est un artiste et un chef d'entreprise qui gère Sip & Paint d'ici.
Je suis venu à l'exposition pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres propriétaires d'entreprises et voir quelles sont les opportunités ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu voir aussi le réseau et voir ce que font les autres dans d'autres entreprises.
Les participants ont assisté à des ateliers critiques de développement d'entreprises animés par des experts et des innovateurs. Les conférences ont couvert une variété de sujets sur l'art de faire les affaires autrement. C'est ce qui a retenu l'attention de Diana Trotter, consultante en commerce de détail et propriétaire d'une société appelée Vanu.
Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, ce sont les ateliers. J'ai trouvé les ateliers très bien. Ce qu'il faut, c'est que des experts viennent vous dire ce que vous devez faire différemment dans votre entreprise.
La Small Business Expo se déroule chaque année à différentes dates dans les principales villes américaines, dont Washington DC, et dans les futurs hommes et femmes d'affaires à développer et élargir leur réseau professionnel, établir de nouvelles relations commerciales et booster leurs affaires. Legacy Sevier est une poète et artiste de la parole dans la zone DC, Maryland, Virginie.
Vous pouvez apprendre beaucoup quand vous venez ici. Beaucoup d'ateliers, beaucoup d'informations. Vous pouvez constituer votre propre entreprise. Très bénéfique.
La prochaine exposition des PME et PMI aura lieu le 29 mars à Philadelphie, en Pennsylvanie, avant de se transporter à Boston, dans le Massachusetts, le 13 avril, Chicago, dans l'Illinois, le 26 avril, et d'autres villes.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakizas au micro, Michel Claire-Joseph à la mise en onde. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.